il faut rappeler que notre commission d'enquête a pour mandat de documenter les violations et les atteintes aux droits de l'homme au Burundi. Cela veut dire que nous devons aller aux sources de ces violations. La source première, c'est l'État, mais le gouvernement ne nous autorise pas à avoir accès au territoire. Mais la deuxième source, donc importante, c'est que si nous n'avons pas accès au territoire, nous pouvons avoir accès aux témoins. Et les témoins, c'est d'abord les victimes qui se sont réfugiées dans les pays voisins. Et nous sommes allés les voir dans les camps de réfugiés. Nous avons vu également et écouté les réfugiés en Europe, en Belgique, en France, en Suisse, etc. Et nous nous sommes documentés également auprès des organisations internationales non gouvernementales qui suivent de manière très étroite le Burundi, notamment Amnesty a publié récemment un rapport très important. Et enfin, nous sommes en contact et nous coopérons avec les institutions régionales politiques, l'Union africaine, la Commission est-africaine dans la région, et également donc les partenaires économiques majeurs comme l'Union européenne, etc. Et enfin, la source d'information, c'est ce qu'on appelle la revue périodique universelle, qui est ce mécanisme par lequel la situation des droits de l'homme de chaque pays est examinée globalement. Et donc, nous nous appuyons également sur tout ça. Et sur la base de ça, maintenant, nous avons tiré deux ou trois conclusions majeures que nous avons partagées avec le Conseil des droits de l'homme aujourd'hui.
Et quelles sont ces conclusions majeures?
Alors, elles sont les suivantes. La première, c'est la persistance des violations graves des droits de l'homme au Burundi. C'est-à-dire que les violations que nous avions documentées dans le premier rapport l'année dernière continuent. Et donc, c'est ce que nous ont dit tous les témoins et acteurs que nous avons écoutés et les informations que nous avons recueillies. Et ces violations ont pris une grande acuité, je souligne le mot, dans le contexte de l'organisation du référendum qui a eu lieu donc le mois dernier.
Et qui a été largement approuvé par les populations burundaises, entre guillemets.
Alors nous ne nous prononçons pas sur la dimension politique du référendum, mais nous avons recueilli des informations selon lesquelles les conditions dans lesquelles ce référendum a été organisé ont été accompagnées de violations graves des droits de l'homme. D'abord la violation du droit d'expression et de parole, des menaces, des arrestations, et des tabassages et des disparitions de personnes qui étaient hostiles au référendum, mais également une sorte de rançonnage de la population burundaise qui était obligée de donner un certain nombre de contributions sur leur salaire, leur revenu, etc., pour apparemment, quote-unquote, financer le référendum. Donc, ça c'est le premier point, persistance des violations des droits de l'homme, illustré dans le contexte du référendum. Alors, la deuxième question de fond, c'est que nous avons identifié ce qu'on nous a dit, nous n'inventons pas, qu'un des acteurs majeurs de ces violations des droits de l'homme, c'est les Imbonerakure, ce sont les jeunes du parti politique au pouvoir.
Qualifiés par une milice par les Nations Unies.
Voilà, c'est une milice au départ, mais ce qui est intéressant que je voulais souligner, c'est que, un, ils ont été identifiés par tous les acteurs internes et externes comme un des acteurs majeurs des violations, des arrestations, des détentions, etc., et des disparitions. Mais une évolution extrêmement importante, c'est que ce groupe qui était d'abord un groupe informel lié au parti politique est progressivement devenu une sorte d'institution de l'État de différentes manières. Un, son ancien responsable, celui qui le dirigeait, a été nommé il y a quelques semaines ministre des Affaires étrangères. Donc, qui était le dirigeant et le coordonnateur des Imbonerakure. Et deuxièmement, toutes les informations que nous avons recueillies démontrent de manière précise, que nous allons expliciter dans notre rapport en septembre, travaillent de manière étroite avec la police, l'armée et les gendarmeries. Donc, avec les institutions de sécurité de l'État.
Vous dites que les Imbonerakure quadrillent le pays, renseignent les instances étatiques sur la présence d'opposants réels ou supposés dans chaque localité du pays.
Voilà, ils se sont donné le droit d'identifier les opposants, de les dénoncer, de les arrêter, de les soumettre à de mauvais traitements. Mais ils se sont donné également le droit de demander à la population d'avoir un certain nombre d'attitudes. Et enfin, nous avons documenté aussi le fait que littéralement, ils rançonnent la population. Pas seulement pour le financement de la, du référendum, mais il les rançonne de manière tout à fait directe.
Et où vont ces sommes d'argent, où vont ces sommes d'argent qui sont collectées par les Imbonerakure de façon obligatoire?
Alors, il y a deux aspects. Un, la légitimation officielle de ces sommes d'argent, c'est le financement de la référendum. Et donc, le mécanisme que l'État a mis en point, c'est de donner à ceux qui financent un récépissé. Donc, les Imbonerakure se sont donné le droit de demander aux gens qu'ils rencontrent dans les quartiers, dans la province, est-ce qu'ils ont des récépissés. Ceux qui n'en ont pas sont soumis à de mauvais traitements ou sont accusés d'être hostiles au référendum. Et littéralement, ce groupe est devenu un acteur lourd de violation des droits. Alors, le deuxième point de fond que nous avons recueilli, c'est l'impunité. C'est-à-dire que ces faits sont connus, les populations en parlent, les médias sur place, les médias étrangers en parlent, mais il n'y a aucune action de justice qui a été prise contre ces gens. Et donc, l'impunité favorise la persistance des violations des droits. Et enfin, l'autre conclusion que nous avons recueillie, et dont nous sommes témoins, c'est que tous les mécanismes des droits de l'homme qui ont été, à part le silence qui est imposé et la répression des défenseurs des droits de l'homme internes, que tous les mécanismes des droits de l'homme qui viennent des Nations Unies et autres, actuellement, ils font l'objet de répression où on les empêche de travailler. Vous êtes au courant qu'il y a eu des incidents graves, on a empêché la BBC. Et il y a eu la BBC, il y a eu RFI, et il y a la Voix de l'Amérique.
Justement.
Qui ont eu des problèmes graves. Et donc, c'est un point qui est absolument important, c'est-à-dire le rétrécissement de l'espace démocratique. Mmh. C'est-à-dire que l'évolution, ce n'est pas seulement la violation des droits de l'homme, mais l'organisation du référendum a illustré que cet espace démocratique se rétrécit. Enfin, troisième point que nous allons beaucoup souligné dans notre rapport, nous allons mettre l'accent sur les droits économiques, sociaux et culturels. Parce que les droits de l'homme, on ne peut pas les analyser seulement sur les droits civils et politiques, qui sont importants, violations, arrestations, détentions, exécutions, etc. Mais les droits économiques, sociaux et culturels sont une dimension absolument centrale. Et une des mesures de la profondeur des violations des droits de l'homme, c'est l'impact de ces violations sur la pauvreté, les inégalités sociales et le niveau de vie de la population.
Oui, alors Monsieur Doudou Diène, ce n'est pas le premier document publié sur le Burundi concernant la violation des droits et libertés fondamentaux dans ce pays. On le sait que la commission d'enquête indépendante des Nations Unies n'est pas reconnue par ce pays, qui lui interdit même, vous le disiez, de venir sur son territoire. Alors comment allez-vous faire pour avoir un impact sur ce qui se passe au Burundi?
Il y a trois facteurs qui illustrent l'importance de la commission d'enquête. Le premier, c'est son indépendance. C'est-à-dire que les membres de la commission d'enquête ne sont pas des fonctionnaires et ils ne sont pas payés et ils sont désignés par le président du Conseil des droits de l'homme sur la base de leur expérience et du travail qu'ils ont fait dans le passé. Ça, l'indépendance est un premier facteur. Le deuxième facteur, c'est que le premier mandat de la commission, c'est-à-dire documenter les violations des droits de l'homme, la crédibilité de la commission dépend de la précision et de l'objectivité des faits que nous allons exposer dans notre rapport. Parce qu'il suffit que les faits que nous exposons, que nous recueillons, analysons, ne soient pas corrects sur les dates, les données, les victimes, etc., que tout de suite, le gouvernement peut être en mesure de décrédibiliser les rapports. Donc nous sommes extrêmement attentifs à la documentation objective et crédible des allégations des droits de l'homme. Et enfin, notre rapport a une immense importance parce que nous sommes le seul mécanisme à cette actuelle qui enquêtons de manière globale sur la situation des droits de l'homme parce que l'année dernière, le Conseil des droits de l'homme, sur la demande du groupe africain, a désigné un groupe d'experts qui devait aller aider le gouvernement burundais dans le domaine des droits de l'homme. Ils ont été désignés par le haut commissaire. Le Burundi les a laissés venir sur son territoire. Et ils étaient là, non pas pour enquêter, mais pour aider les autorités et institutions burundaises. Et au bout de quelques semaines, on leur a dit que leur visa ne serait pas renouvelé et qu'ils devaient quitter le pays.
C'est ça.
Donc, et c'est un mécanisme qui a été proposé par le groupe africain au Conseil des droits de l'homme et accepté par le Burundi.
Vous le savez aussi, Monsieur le Président, dernière question, vous le savez aussi que Bujumbura rejette toutes ces accusations de la commission indépendante dont vous êtes le président, estimant que vous êtes devenu une caisse de résonance de toutes les forces négatives vis-à-vis du Burundi.
Ben, c'est-à-dire que, le gouvernement ne récuse pas seulement la commission indépendante, mais je viens de vous dire qu'elle vient de récuser il y a un mois les experts indépendants désignés pour venir aider le gouvernement qu'ils avaient accepté. Et comme vous le savez également, le représentant des Nations Unies, M. Kafando, du Burkina Faso,
l'ancien président burkinabé, a fait l'objet d'attaques
directes et personnelles, etc. Mais ce qui les amène à être extrêmement nerveux, j'allais dire, sur notre rapport, c'est le caractère objectif et détaillé de la documentation des violations des droits de l'homme. Aucun organisme ne fait ce travail objectif. Et ensuite, on nous demande d'identifier les responsabilités et de proposer des solutions de justice. Voilà les trois piliers de notre rapport. Et notre rapport est mondial. Il est accessible à tout le monde, aux États, aux organisations non gouvernementales, à la justice, à la presse, à tout le monde. Et ils savent donc que le rapport a un impact absolument important. C'est ce qui fait que chaque présentation de rapport, comme aujourd'hui, le gouvernement tient à faire une déclaration après notre présentation pour évidemment récuser. Mais nous demandons au gouvernement, nous disons au gouvernement, si vous voulez mettre en question notre rapport, laissez-nous donner accès à vos territoires, parce que là, nous écouterons vos institutions nationales et gouvernementales et nous serons obligés d'en parler dans le détail dans notre rapport, ainsi que la population. Mais vous ne voulez pas donc critiquer le manque d'objectivité en disant qu'on ne reflète pas assez leur position et ne pas nous laisser avoir accès sur le territoire. Et vous êtes en train de museler tous les mécanismes des Nations Unies et même de l'Union africaine qui ont été désignés sur place.
Oui. Alors, Monsieur le Président, début juin, le président burundais Pierre Nkurunziza a surpris tout le monde en annonçant qu'il ne serait pas candidat à sa succession en 2020. Est-ce que cela pourrait être de nature à baisser la tension dans ce pays? Parce qu'on sait que c'est l'idée, c'est le fait que le président Nkurunziza cherche à s'agripper au pouvoir qui est à la base de toutes ces violations des droits et libertés fondamentaux au Burundi.
Écoutez, deux réponses. La première, la commission, son mandat n'est pas de traiter de la dimension politique de la déclaration du président Nkurunziza. Nous laissons au peuple burundais ses mécanismes démocratiques et à l'extérieur de se prononcer sur ces déclarations. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si après le référendum et après cette déclaration, il y aura des signaux en matière des droits de l'homme qui donneront crédibilité à cette déclaration. Et j'ai indiqué les trois signaux que nous attendons en matière des droits de l'homme. C'est un, l'arrêt de la persistance des violations des droits de l'homme. Et qu'on ait des informations indiquant que non, les violations des droits de l'homme ont diminué ou ont s'arrêté. Deuxièmement, l'accountability, c'est-à-dire la lutte contre l'impunité de ceux qui ont commis ces violations. C'est-à-dire, et là, donner donc l'indépendance à la justice et l'arrestation de ceux qui ont commis des violations des droits de l'homme et leur poursuite dans la justice. Et enfin, la coopération avec les mécanismes des droits de l'homme nommés par l'Union africaine, l'ONU et notre commission d'enquête. Et ce sont ces trois signaux-là qui pourraient conforter et donner peut-être, sur le plan des droits de l'homme, une certaine crédibilité à la déclaration qui a été faite. C'est-à-dire de voir si la déclaration de non-présentation de candidature sur laquelle nous ne nous prononçons pas sur le plan politique a une traduction sur le terrain qui est peut-être le plus important, celui des droits de l'homme. Donc c'est ça qui nous intéresse, nous.
D'accord, merci beaucoup.
Et nous suivons ça avec attention, nous en parlerons dans notre rapport détaillé en septembre.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. On reviendra vers vous en septembre
pour
une nouvelle interview. Mais en tout cas, c'était très bien. Merci beaucoup.
Je vous souhaite
une excellente journée à Genève.
Merci. Au revoir.